Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Éthique. Tout de suite, une interview réalisée par Pascal Marcadji.
40 ans après la première loi sur la protection de la nature qui visait à protéger les espèces emblématiques, le projet de loi sur la reconquête de la biodiversité entend faire passer du simple stade du catalogue au principe même du respect du vivant en toute activité humaine, une vision à laquelle les ONG environnementales souscrivent évidemment. Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, agir pour la biodiversité.
La planète, à travers ses différentes conférences mondiales, s'était engagée à stopper le déclin du vivant, et on voit qu'il se poursuit à un rythme effrayant actuellement. Il y a une espèce de batracien sur 3 qui disparaît, une espèce de mammifère sur 4, une espèce d'oiseau sur 8. Et les services rendus par la nature, c'est 40% de l'économie mondiale. Or, ces services, comme la pollinisation, sont en déclin de 60%. Alors pour nous, il s'agit à la fois d'avoir une démarche éthique. Nous sommes dominants sur la planète et nous avons un devoir éthique de préserver le reste du vivant. Mais il s'agit aussi de penser à l'avenir de l'homme. On a un devoir, je ne dirais pas de compassion, mais de cohabitation judicieuse avec ce vivant-là. Nous ne pourrons pas nous exonérer de la biodiversité.
Mais pour que cette loi soit véritablement l'opportunité d'inverser la tendance, les ONG pointent en particulier 3 points, faute desquels la loi n'aura pas toute sa portée. En premier lieu, le préjudice écologique doit figurer dans la loi et non plus se borner comme aujourd'hui à faire l'objet d'une liste par nature incomplète qui les énumère. Pascal Canfin, président du WWF.
C'est très important parce qu'aujourd'hui on est dans une situation aberrante où lorsque une entreprise comme Total est responsable d'une marée noire comme ça fut le cas avec l'Erika, eh bien il n'y a aucun cadre de responsabilité qui s'applique dans le droit civil. Et donc la loi biodiversité doit être le cadre politique qui amende le droit civil et qui crée formellement cette responsabilité et ses dommages et intérêts.
La compensation écologique est le point d'achoppement de la loi. Compenser un projet d'aménagement revient à l'autoriser, dénoncent certaines ONG. Le principe étant que le maître d'œuvre du projet peut choisir jusqu'à des projets de compensation clé en main qu'il achète en quelque sorte auprès d'une banque écologique, son chèque allant à l'État et non par exemple à la commune concernée. Pour humanité, biodiversité, il faut absolument que cette compensation écologique fasse l'objet d'un contrôle. Trop souvent, les entreprises assurent qu'elles ont satisfait à l'obligation de compensation écologique alors que rien n'est fait. Christophe Aubel, directeur d'Humanité et Biodiversité.
L'idée de la compensation, d'abord, c'est pas la compensation sous sève, c'est éviter, réduire, compenser. C'est quoi l'idée? C'est que fin des années 70, début des années 80, c'est une idée innovante pour ne pas dire révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on se dit, bah quand même, on fait des routes, on fait des villes, on bétonne, et tout ça, on le fait sur des espaces naturels. Et donc, il faut qu'on se pose la question de nos impacts sur la nature et qu'on essaye d'éviter ces impacts, de les réduire. Si on n'a pas pu éviter et réduire, ce qui reste, on le compense. Compenser, ça veut dire que si, par exemple, on a détruit une zone humide, on va restaurer, refaire une zone humide ailleurs pour compenser cette perte. C'est ça, la compensation. Donc, au départ, c'est une belle idée. Et puis, d'abord, mise en place par la loi de 76, pendant longtemps, il s'est rien passé, on la mettait pas beaucoup en œuvre. Les lois Grenelle ont reboosté l'idée en disant, faut vraiment y aller, il faut éviter, il faut réduire, il faut compenser. Et puis, maintenant, on a deux dérives. On a une dérive de ceux qui disent, non, la compensation, c'est le grand mal parce que c'est le droit à détruire. Alors, moi, ceux-là, je leur dis, écoutez, je veux bien que vous me disiez qu'il faut pas faire de compensation, mais alors on arrête de tout aménager. C'est-à-dire, on arrête de détruire la nature, et là, je veux bien qu'on arrête de compenser. Moi, je pense qu'on va continuer à faire des stades ou des pistes cyclables, même, qui peuvent détruire de la nature. Et donc, faut continuer à compenser. Et l'autre dérive, c'est de dire, je fais un petit chèque, je caricature un peu, mais à peine. Et puis, comme ça, je m'abstrais de toutes mes obligations. Non. Nous, ce que nous disons, c'est que quand un porteur de projet met sur la table un projet et que l'autorité publique doit lui donner l'autorisation de le faire, il doit non seulement expliquer pourquoi il fait son projet, mais aussi pourquoi et comment plus exactement il a évité, réduit et compensé les impacts. Il met le dossier sur la table, il y a des gens qui vont donner un avis, il y a l'enquête publique qui va permettre de s'exprimer sur cet avis. Il faut que, à la suite de la réalisation du projet, et même pendant les travaux, il faut que les pouvoirs publics regardent si l'engagement pris par le porteur de projet, il est vraiment mis en œuvre. C'est l'autre difficulté. Actuellement, on a quelquefois des très beaux projets de compensation, sauf qu'ils ne sont pas mis en œuvre et qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, moi, je continue à dire que le éviter, réduire, compenser, C'est un outil utile. Il y a des mauvais projets, mais il y a aussi des bons projets quand même. Et donc, il faut éviter, réduire, compenser. Simplement, on regarde le sérieux du dossier présenté et on regarde ensuite, on contrôle la réalité effective de la mise en œuvre de cette compensation. On ne regarde pas suffisamment. On ne sait même pas quelquefois. Personne actuellement n'est capable dans le pouvoir public de dire depuis que je fais des autorisations avec de la compensation, où se situe cette compensation, elle se fait. Nous, on a une idée toute simple, par exemple, dans le projet de loi. Obliger tout porteur de projet qui a été accepté à annuellement publier sur son site internet où il en est de ses engagements de compensation. C'est un bon moyen de rendre les choses transparentes et de permettre aux ONG notamment, mais aussi aux riverains locaux, de se saisir du sujet et de dire au pouvoir public, écoutez, monsieur a dit qu'il allait restaurer deux zones humides dans notre région, et bien il nous dit là qu'il en a fait que la moitié d'une, il y a un problème. C'est tout bête, c'est tout simple, mais ce serait très efficace.
La loi prévoit en outre la création très attendue de l'Agence française pour la biodiversité. Et là, nous sommes loin, semble-t-il, du schéma exemplaire de l'ADEME. Bernard Chevassieux-Louis, président d'Humanité et Biodiversité.
D'abord, sur le titre, il y avait eu un grand débat et on tient beaucoup à ce que ce soit l'Agence française pour la biodiversité. C'est-à-dire qu'elle a effectivement un rôle de maison commune, d'accueil et de fédération des acteurs et qu'elle ne prétende pas tout faire par elle-même. Et donc, première inquiétude, on ne voudrait pas que ça tourne trop à devenir un service de l'État, une agence comme les autres. Au contraire, il faut que cet esprit maison commune et fédération des acteurs, publics et privés, associatifs, etc., continue à jouer. Deuxième inquiétude, c'est effectivement quel est le périmètre. On a beaucoup et on continue à militer fortement pour que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en fasse partie, parce que dans cet office, il y a énormément de compétences complémentaires de celles des autres organismes. Et effectivement, c'est pas une défiance vis-à-vis de l'ONCFS et des chasseurs, c'est au contraire le fait que leur place naturelle est au sein de cette agence. Et puis, troisième inquiétude, est-ce que cette agence aura les moyens humains et financiers pour travailler? Parce qu'on est très admiratif de ce qu'a fait l'ADEME. Mais derrière l'ADEME, eh bien, il y a 400 millions par an de dotation. Et le fait que l'ADEME soit écoutée, recherchée pour ses compétences techniques, soyons réalistes, elle l'est aussi parce qu'elle est capable d'aider concrètement des porteurs de projets. Et ça, effectivement, c'est tout l'enjeu qui, pour le moment, est une question non résolue.
Enfin, tient à souligner le WWF, quid de la biopiraterie?
La biopiraterie, c'est le fait d'aller piller, en quelque sorte, des ressources qui sont dans les forêts tropicales, qui sont le savoir-faire des communautés locales ou qui sont un patrimoine naturel entretenu par ces communautés locales et aller y chercher pour faire des médicaments, pour faire des cosmétiques, aller y chercher des nouvelles substances et ne pas associer ces communautés locales ni au processus de recherche ni aux résultats économiques. Et ça, cette situation est vraiment scandaleuse. Donc c'est pour ça que nous en faisons un point fort de notre action sur la loi, parce que c'est un principe de justice que de reconnaître le service qu'elle rend et donc de les associer aux résultats économiques et aux bénéfices des laboratoires pharmaceutiques comme des chaînes de cosmétiques.
En 1976, la nature était un peu un supermarché qui se vidait. Aujourd'hui, nous sommes au bord de la 6e crise d'extinction des espèces, rappelle Benoît Hartmann, le porte-parole de France Nature Environnement. Faute de transversalité, soulignent les ONG, la biodiversité, soit 40% de notre économie, restera de façon schizophrène une simple variable d'ajustement.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.